VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 7h à Washington, 11h en temps universel. Et on commence par les États-Unis avec 12 candidats à la primaire démocrate pour la présidentielle de 2020 contre le président Donald Trump qui ont eu un débat hier soir dans l'Ohio. Outre les sujets de politique intérieure, il a été question de l'enquête actuelle à la Chambre des représentants sur une éventuelle destitution du président américain, ses attaques contre l'ancien vice-président démocrate Joe Biden et l'opération militaire turque contre les milices kurdes dans le nord-est de la Syrie. Pour une analyse, Idrissa Seydoudia a joint ici même à Washington notre confrère René Leek. Il commence par ses premières impressions sur le débat.
Écoutez, moi j'ai trouvé que c'était un débat fort intéressant, d'un très bon niveau. J'ai trouvé que tous les participants à ce débat, je les ai trouvés plus à l'aise que pour tous les autres débats. Je trouve que chacun est intervenu avec beaucoup de dynamisme, beaucoup d'enthousiasme, d'énergie, avec des arguments plus affûtés que dans les autres débats. Donc globalement, j'ai l'impression que tous les candidats sont un peu mieux formatés, un peu mieux éprouvés dans ce type d'exercice. Donc ça, c'est la première chose qui m'a frappé. La deuxième, c'est qu'au fond, on est resté un peu dans le schéma un peu classique des conservateurs qui essayent de remonter un peu la pente contre ce qu'on appelle les progressistes, et notamment Warren et Sanders. Je crois que cette fois-ci, les modérés ont été beaucoup plus agressifs parce qu'ils sentaient que les progressistes étaient en train de prendre un peu de large.
Bon, spécifiquement, ils ont parlé de l'impeachment, c'est-à-dire de l'enquête sur la mise en accusation du président Trump à cause de l'affaire ukrainienne. Je crois qu'ils ont été tous unanimes, bien entendu. Ce sont des démocrates à soutenir cette enquête.
Tout à fait, ils ont été unanimes et c'était intéressant parce que les deux leaders que sont Joe Biden et Elizabeth Warren, Elizabeth Warren a été la première à appeler pour l'impeachment et Joe Biden a été le dernier puisqu'il ne l'a fait que depuis très très récemment. Donc enfin la boucle était bouclée, donc tous les 12 étaient sur la scène, se sont accordés qu'il n'y avait pas d'autre option que l'impeachment et également la destitution.
On s'attendait à une défense beaucoup plus vigoureuse de la part du vice-président qui a été accusé en même temps que son fils de pratiques corrompues, si je puis dire, en Ukraine.
Oui, il n'a pas accepté d'aller sur ce terrain. Le journaliste lui a posé deux, voire même trois fois la question et à chaque fois il a un peu botté en touche, comme on dit, en disant, écoutez, ce n'est pas ça la question. La question centrale, c'est Donald Trump, c'est qu'on ne va pas se laisser divertir par ses tactiques et au fond, s'il y a quelqu'un de corrompu, c'est bien lui, c'est le président le plus corrompu dans l'histoire des États-Unis. Son fils a fait une interview ce matin et il pense que ce que son fils a dit pour se défendre était tout à fait acceptable. Et aucun des autres candidats ne l'a attaqué sur ce terrain-là. Je pense qu'ils avaient déjà réfléchi à la question et préféraient rester le plus loin que possible de cette question.
Concernant maintenant la Turquie, la Syrie et les Kurdes, là aussi, il y a eu unanimité. Hein?
Tout à fait, il y a eu unanimité. Un peu, j'allais dire, l'horreur exprimée très fort par tous les candidats. L'horreur de voir les Américains lâcher des alliés majeurs qu'ils ont eus dans la région, notamment dans leur lutte contre le groupe l'État islamique. Les différents candidats ont été très très virulents contre cette politique de Trump qu'ils ont qualifiée d'irréfléchie. Elizabeth Warren est allée un peu plus loin. C'est un nouveau discours que j'entends de plus en plus chez quelques démocrates en disant au fond, le bénéficiaire ultime de cela, c'est la Russie. Et elle a rajouté, on dirait qu'avec Trump, tout mène à la Russie. Bien entendu, faisant allusion aussi à cette question de l'Ukraine qui, elle aussi, semblerait mener à la Russie.
Le journaliste René Leek à Washington. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rejeté la mise en place d'un cessez-le-feu en Syrie, réclamé avec force par les États-Unis, faisant monter la tension avant une visite ce mercredi du vice-président américain. Le président Donald Trump a décidé de dépêcher M. Pence et son secrétaire d'État, Mike Pompeo, qui doivent rencontrer demain jeudi M. Erdogan, avec pour objectif de le convaincre de négocier une trêve avec les combattants kurdes. Une semaine, jour pour jour après son déclenchement, l'offensive turque contre la milice kurde des unités de protection du peuple, YPJ, a déjà rebattu les cartes dans le nord de la Syrie, nouvel épicentre du conflit qui déchire ce pays depuis 2011. À la faveur d'un accord avec les forces kurdes, le régime est en effet revenu dans des régions qui lui échappaient depuis des années et Moscou a commencé à remplir le vide laissé par le retrait des forces américaines. Un attentat au camion piégé a tué aujourd'hui 3 personnes, dont 2 policiers et blessé une vingtaine d'enfants d'une école religieuse dans l'est de l'Afghanistan. L'attaque qui s'est produite dans la province de Lagman visait le quartier général de la police du district d'Alishing, selon le porte-parole du gouverneur provincial. Les talibans ont revendiqué cette attaque qui, selon eux, a tué des dizaines de membres des forces de sécurité. Et puis, des discussions marathon reprennent aujourd'hui à Bruxelles pour tenter de trouver un accord avec Londres sur le Brexit que les négociateurs ont jugé possible avant le sommet européen de jeudi. Les négociateurs en chef, Michel Barnier, doit faire un point en début d'après-midi devant les ambassadeurs des 27 à la veille du sommet, théoriquement le dernier avant le divorce programmé le 31 octobre.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président Ali Bongo Ondimba du Gabon a promis aujourd'hui, pour les 10 ans de son investiture à la tête du Gabon, d'accélérer le rythme des réformes et la lutte contre la corruption dans un pays à l'économie en berne, se disant déterminé à aller au bout de sa mission. « Je me sens bien et de mieux en mieux chaque jour », assure-t-il en préambule d'une interview publiée par le quotidien pro-gouvernemental L'Union, près d'un an après avoir été affecté par un accident vasculaire cérébral, AVC qu'il a longtemps tenu en retrait du pouvoir. L'opposition, mais aussi des économistes, estiment que le Gabon n'a pas su profiter de la manne pétrolière pour diversifier sa production avant que la chute des prix de l'or noir en 2014 ne dégrade profondément son économie. En Algérie, le chef d'état-major de l'armée et actuel homme fort du pays accuse certains manifestants d'être payés avec de l'argent sale pour s'opposer à la présidentielle prévue le 12 décembre. Les étudiants sont encore sortis massivement hier pour rejeter cette élection. Bagassi Koura.
Des partis insidieux utilisent de l'argent sale versé par des entités inconnues ayant des objectifs malveillants afin de grossir le nombre de manifestants, a déclaré hier dans un communiqué le général Ahmed Gaïd Salah. Il n'a pas précisé qui il visait ni d'où venait cet argent sale. Hier, des milliers d'étudiants ont encore manifesté à Alger malgré un important dispositif policier. À l'occasion du 34e mardi de contestation, ils ont défilé sans incident jusqu'à la Grande Poste, place symbolique de la contestation. Aussi, chaque vendredi depuis le 22 février, une foule massive manifeste pour demander le départ de tout le système Bouteflika. Le général Gaïd Salah a de nouveau mis en garde hier ceux qui tentent d'entraver la tenue de ce scrutin. Il a réitéré que la loi sera appliquée avec toute la rigueur requise contre toute personne qui tentera d'entraver la tenue de la présidentielle le 12 décembre prochain.
En Guinée, un jeune manifestant a été tué hier à Conakry par les tirs des forces de sécurité au deuxième jour d'une mobilisation contre un éventuel troisième mandat pour le président Alpha Condé. De nouveaux heurts ont opposé dans la capitale des centaines de manifestants aux forces de l'ordre. Irénée Amanongo.
Les autorités n'ont pas encore confirmé la quasi-totalité des décès annoncés depuis lundi. La mort d'Abdoulaye Timbosso, 25 ans, porte à près d'une dizaine le nombre de décès rapportés par des témoins depuis le début de la protestation à Conakry et dans d'autres villes du pays. Plusieurs quartiers périphériques de Conakry sont secoués par les violences. Une coalition de partis d'opposition, de syndicats et de membres de la société civile a appelé les Guinéens à manifester à partir de lundi contre le projet prêté au président sortant de briguer un troisième mandat en octobre 2020. Le président Alpha Condé a proposé lundi soir la tenue d'un cadre de dialogue et de concertation. Pas de dialogue tant que les membres du Front National pour la Défense de la Constitution, interpellés samedi, reste en prison, a réagi Selun Dalen Diallo, chef de file de l'opposition. Les membres de ce front du refus interpellés samedi vont comparaître aujourd'hui au tribunal de première instance de Dissem à Conakry. Ils sont inculpés pour des faits de manœuvre et actes tendant à troubler la sécurité publique et provoquer des troubles graves.
L'ONG Amnesty International a dénoncé mardi l'interdiction faite par les autorités togolaises à trois militants ressortissants de la CEDEAO d'entrer dans le pays. Les autorités ont interdit lundi à des membres du collectif Tournons la Page, Michael Zodi, Karim Tanko et Alexandre Didier Amani d'entrer dans le pays pour un événement réunissant d'autres organisations de la société civile, selon l'ONG. Et puis les 300 000 fonctionnaires du Zimbabwe ont annoncé mardi qu'ils ne pouvaient plus se rendre à leur travail, leur salaire ayant perdu toute valeur du fait de l'inflation galopante selon leur syndicat. Jean-Roger Billon à ce micro, prochain journal dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque pour un nouveau journal. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.